Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette série d'été de La Lorgnette. Salut Clémentine.
Salut Thomas.
Alors au long de ce premier semestre 2025, nous avons réalisé la captation de rencontres d'artistes locaux et locales avec le public. Ces rencontres, intitulées « Artistes en circuit court », se sont déroulées une fois par mois au tiers-lieu Le Bâtiment 84 à Bracieux, qu'on remercie au passage pour leur sollicitation et leur accueil. Et cette semaine, avec qui on discute, Clémentine ?
On discute avec deux personnes, Mélanie Lemoine et Nicolas Duclou, qui ont créé en 2022 la compagnie La Trotteuse, une compagnie de théâtre musical. Et vous apprendrez dans cette discussion que le théâtre musical, ce n'est pas de la comédie musicale forcément. La compagnie La Trotteuse, elle est basée à Lignières et ils nous expliquent le processus de création de leur première création qui s'intitule Western et qui était jouée à la Halle aux Grains à l'automne 2024. Bonne écoute!
Bon, en attendant, on va se présenter tout simplement. Pendant que Mélanie fait ses manœuvres, je vais me présenter. Je suis Nicolas Duclou, je suis musicien. Nous sommes mariés. Je le dis parce que vous allez le deviner petit à petit, donc autant que ça soit dit dès le départ. Depuis de nombreuses années maintenant, je fais de la musique pour le théâtre, essentiellement. J'ai travaillé avec des gens comme Pierre Guillois ou Philippe Mignana, notamment. Avant, j'avais une compagnie qui s'appelait Les Brigands, qui a joué à Blois, d'ailleurs, dans une autre époque de ma vie. Et nous avons fondé cette compagnie La Trotteuse depuis que nous avons voulu créer ce spectacle western. Nous n'avons pas toujours vécu dans la région. Nous sommes parisiens d'origine. Mais ça fait une dizaine d'années qu'on vient souvent et cinq ans qu'on y vit à plein temps. Et que nous avons souhaité nous ancrer professionnellement sur le territoire. Voilà, je passe la parole à Mélanie.
Donc moi je suis Mélanie Lemoine et je suis comédienne et autrice. Et effectivement, avec Nicolas, on collabore depuis quand même de nombreuses années sur pas mal de formes. C'est plutôt des commandes. On s'est rencontrés sur un festival pour lequel on a essayé plein de styles, plein de créations vraiment spéciales pour ce festival. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai travaillé aussi comme comédienne dans plein d'autres compagnies, voilà, intermittente du spectacle. Je faisais mes heures, mes cachets, mes bazars. Et puis, j'ai rencontré le comédien et humoriste Vincent Dedienne, pour lequel j'ai écrit tous ses spectacles, ses chroniques. Et voilà. Donc ça m'a donné le goût de l'écriture que j'avais déjà un petit peu, mais pour lequel j'avais un petit syndrome de l'imposture, parce que moi, j'ai plutôt une formation de mathématiques, donc ça n'a rien à voir. Et donc, petit à petit, ce goût de l'écriture a fait qu'avec Nicolas, on s'est senti un peu, aussi parce qu'on n'avait pas forcément la pression dans les festivals, de tester des choses. Donc on a testé pas mal de choses. On a fait une série, une opérette en feuilleton. On a fait plein de choses. Et puis effectivement, quand on s'est installé dans la région, l'idée était déjà de monter une compagnie pour travailler là où on vivait. Ça nous paraissait important, ne serait-ce que pour la socialisation, d'être ancré dans un territoire, de connaître les acteurs culturels de la région, de savoir avec où est-ce qu'on mettait les pieds, voilà. Et on se rend compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se rend compte que finalement, ça nous offre la possibilité de, bah, comme c'est nous qui décidons, et qu'on a eu la chance d'être très bien accompagnés, très bien accueillis par pas mal d'acteurs culturels de la région, d'avoir les mains libres pour faire un peu ce qu'on voulait. Et l'objectif de cette compagnie, c'était de faire du théâtre populaire, accessible, joyeux, et donc est arrivée l'idée de western. Pourquoi western ? Parce qu'on s'est dit, en fait, on cherchait une idée pour... on se disait que nous, on habite dans un tout petit village de 400 habitants, et on s'est dit... qu'est-ce qui ferait se lever nos voisins pour aller au théâtre ? C'est des gens qui vont pas forcément beaucoup au spectacle. Pour la plupart des gens de notre village, ils savent même pas qu'il y a une scène conventionnée à 10 minutes de chez eux. Donc ils sortent vraiment pas beaucoup au théâtre. Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait les faire sortir ? Et on s'est dit, bah tiens, un western, ce serait pas mal. Donc western, c'est l'adaptation en spectacle vivant de ce film « Le train sifflera trois fois ». Tu veux dire un petit mot sur ce film ?
Oui, c'est un film qui est... on l'a choisi aussi parce que c'est un film très musical, Il y a énormément de musique. Il y a ce thème-là, qui, c'est une chanson en fait, qui revient comme une rengaine tout le long du film, mais aussi une musique originale d'un certain Dimitri Tiomkin, qui a un petit peu inventé la musique hollywoodienne, bien qu'il soit d'origine ukrainienne. Et donc ce film était cher à mon cœur aussi par sa partition musicale. D'autre part, il est intéressant à dramatiser au théâtre puisqu'il se passe en temps réel. Donc c'est vraiment 84 minutes implacables. C'est toujours assez excitant au cinéma d'avoir quelque chose qui, on sait, se fait comme dans un plan fixe ou un grand travelling en temps réel. Et on a transposé ça au théâtre aussi.
Effectivement, le train sifflera trois fois. En gros, c'est ce personnage, donc Will Kane, qui attend. Il vient de se marier, il est super heureux. On lui annonce, le jour de son mariage, qu'arrive son ennemi juré, qu'il a mis en prison, qui était condamné à la potence 5 ans auparavant, et qui, on ne sait pas très bien comment, s'est sorti de la prison et revient pour se venger au train de midi. Et Will est en train, donc il vient d'épouser Amy, qui est Quaker, c'est-à-dire qui est non-violente, et pas de bol, on lui dit, dans 1h15 arrive le très méchant, qu'est-ce que tu fais ? Et toute la question du spectacle va être, qu'est-ce que va faire ce personnage ? Où est-ce qu'il va aller ? Est-ce qu'il va aller taper aux portes pour chercher de l'aide ? C'est un héros dans la ville, tout le monde l'adore, c'est un type formidable. Donc il se dit, je vais aller trouver de l'aide. Mais va-t-il y arriver ou non ? En 84 minutes, c'est un peu le suspense qui existe pendant tout le long du spectacle. Ce qui est effectivement intéressant, c'est que on fait du théâtre musical, ce qui est un peu une case pas forcément très définie, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de la comédie musicale, c'est pas de l'opéra, c'est pas c'est du théâtre musical dans la mesure où la musique est créée en même temps que le texte pour nous, et dans la mesure où, comme on est deux aux commandes, la musique a une importance capital dans la dramaturgie. C'est presque un personnage, cette musique. Elle arrive, elle est là tout le temps. Il y a ce refrain qui revient. Voilà, donc c'est assez important pour nous. Et dans ce spectacle, il y a des chansons, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est pas une comédie musicale. Bon, on est toujours un peu embêtés parce que théâtre musical, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pour nous, c'est très clair. Mais en fait, on ne sait pas très bien dans quelle case on rentre, quoi.
Exactement, c'est du théâtre avec de la musique, avec des bouts de musique dedans, quoi. Comme ça a toujours été le cas jusqu'au début du XXe siècle, il y avait dans toutes les pièces, depuis Shakespeare, puis Molière en France, jusqu'à La Biche, Feydeau, il y avait toujours des chansons ou des bouts de musique mêlés au théâtre, et on ne se posait pas trop la question de savoir pourquoi, de la convention, de ceci, cela. Et au XXe siècle, c'est devenu compliqué, on a divisé les choses en musique, en opéra, en comédie musicale, en opérette, il a fallu avoir des tiroirs. Et nous, on aimerait pouvoir mélanger les choses sans devoir avoir une étiquette de comédie musicale ou pas.
Et donc là, le dispositif, c'est que Nicolas, il joue vraiment du piano en live et il a à côté de lui un ordinateur sur lequel il y a des sons, qui sont des sons enregistrés, qu'il a lui-même écrits, composés. Et donc, il joue sur une bande-son hollywoodienne, quoi. Il a un peu recréé, enfin là, vraiment, je parle vraiment en ton nom. À ta place, carrément.
C'est du woman's planning.
Ouais, c'est comme ça à la maison. C'est moi qui prends.
C'est comme ça maintenant.
Donc voilà. Donc en gros, le spectacle, dans le spectacle, on est un peu en narration comme ça, où on parle directement, où on raconte des choses que le spectateur du film voit. Et là, de temps en temps, on incarne des personnages quand même. On a fait son conservatoire, donc on fait quand même des personnages. Donc ça, c'est une des solutions qu'on a trouvées, puisque vous l'avez vu, on n'est que trois au plateau. Donc il y a Nicolas qui a la musique, il y a Aurélien, le comédien, et puis moi. Donc une des solutions qu'on a trouvées pour incarner tous les personnages du film, dans lequel évidemment il y en a plus d'un, c'est que chacun on joue plusieurs personnages. Donc on est un peu en narration et puis on est aussi un peu on incarne des personnages. Donc ça a été une première partie du travail, d'adapter toute la dramaturgie du scénario au plateau, avec cette contrainte qui était, nous ne sommes que trois et il y a une foultitude de personnages, puisque le principe, c'est que ce personnage de Will va faire du porte-à-porte pour chercher de l'aide en attendant le train de midi, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver tout seul face à son ennemi juré. Et donc, comment incarner tous ces personnages ? Donc, une des solutions, c'est donc que moi, qui ne suis pas Will Kane, je puisse faire d'autres personnages. Mais nous avons trouvé d'autres astuces lors de notre première séquence de travail à l'échalier. Donc, une des autres solutions qu'on a trouvées, c'est qu'effectivement, Aurélien, le comédien, joue avec lui-même. Donc là, on a ce petit truchement de « je mets un portant avec un costume pour faire Will », mais dans d'autres scènes, il joue les deux personnages. Il y a aussi un autre personnage féminin que je joue aussi. Donc en fait, chacun, on a notre petit moment où on joue avec soi-même, ce qui est assez rigolo, assez difficile à trouver, parce que du coup, c'est des ruptures de ton qui sont assez difficiles à trouver, mais c'est quand même assez rigolo. Et je pense qu'il y avait quelque chose, au moment où on a eu envie de faire ce spectacle, de très enfantin sur le jeu de comment, en fait, c'est comme si... En gros, on n'arrête pas de se dire, mais en fait, ce spectacle, c'est on joue à jouer. On joue à raconter ce film parce que ce film est génial et que Nicolas pourra en témoigner. Moi, quand je vois des films ou des spectacles que j'adore, après, je lui raconte tout et je fais tous les personnages. Et en fait, il y a ce goût du jeu qui est à la fois je te raconte et puis à ce moment-là, je fais le personnage et puis je te re-raconte et puis je fais un autre personnage et puis je parle avec moi-même, qui est assez ludique et qui était... un des moteurs aussi de créer cette compagnie, c'était qu'il y avait cette envie de se dire il faut que ce soit joyeux, il faut qu'on rigole, quoi, il faut que ce soit agréable, ludique. Il y a quand même un petit défi d'incarnation et d'interprétation à jouer avec soi-même. Et ça fait aussi partie du jeu, quoi. Il y a une autre solution qu'on a trouvée. Donc effectivement, une des astuces que nous avons trouvées, c'est de faire appel à des complices qui sont... sur scène avec nous depuis le début du spectacle. Alors là, en l'occurrence, on a eu la chance de pouvoir mener un vrai atelier pendant un week-end entier avec une douzaine d'amateurs venus d'horizons divers et variés en partenariat avec la Halograin et donc avec lesquels on a travaillé pendant donc, tout le week-end des parties. Alors ça, en l'occurrence, on ne l'a pas trop travaillé parce qu'on aimait bien que ce soit un peu frais et un peu fragile. Mais il y a d'autres scènes dans le spectacle où ils ont un petit peu dansé, un petit peu chanté, un petit peu joué la comédie. Voilà. Et en fait, ça nous amusait d'imaginer que de la même manière que ce pauvre personnage, Will, il va sonner aux portes pendant 84 minutes en disant « s'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous aider, vous pouvez pas m'aider, j'attends le grand méchant. Voilà. » Nous, on a fait le même travail en essayant de séduire des amateurs qui, a priori, savaient pas forcément trop ce qu'ils venaient faire là. Ils venaient faire du théâtre, mais bon, comme ça. Et en fait, notre objectif, c'était de les accrocher suffisamment pour qu'ils aient envie d'être là pendant le spectacle et que pendant le spectacle, ils puissent jouer eux aussi à être les habitants, les habitantes du village de Hadleyville. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans le film, en fait. On va chercher de l'aide et voilà. Alors nous, on a trouvé plutôt des gens volontaires et ça a été des moments assez chouettes de médiation, de rencontres, de partage. Et je pense pour les amateurs, parce que du coup, les amateurs sont vraiment sur le plateau. Enfin, ils voient le spectacle comme rarement ils voient des spectacles. Il y a aussi un élément important, c'est la dame qui a l'horloge. Ça, c'est aussi un rôle très important qu'on donne à des amateurs qu'on a vus.
Comme je disais tout à l'heure, le film est en temps réel, donc notre spectacle aussi. Et donc, il y a un contrôle du temps permanent qui en rajoute un peu au stress.
Et ça, c'est des choses, évidemment, que quand on commence à faire de la médiation avec, par exemple, il y avait cette dame qui était là sur le banc, qui tient l'horloge et qui avait une canne. Donc, évidemment, quand on l'a vue arriver, on s'est dit, bon, est-ce qu'elle va accepter de faire la baston ? Elle a fait la baston, elle prenait sa canne, elle donnait des coups de canne. Voilà. Et ça, pour nous, c'était hyper... C'était très joyeux. On a fait aussi des ateliers dans d'autres lieux avec des parents et des enfants, donc intergénérationnels. Et c'était à chaque fois, au début, les gens disaient non, oh, je ne vais pas faire ça. Et puis en fait, ils se prennent au jeu. Et vraiment, il y a ce truc, on joue au cow-boy, on joue comme des enfants, quoi. Donc ça, c'est hyper agréable. Et c'était quand même une chose très importante dans Western, c'était d'aller à la rencontre des publics et toujours avec cette idée de se dire. On veut que les barrières tombent, quoi. C'est-à-dire, monter sur scène, c'est pas dramatique, c'est pas grave, c'est de la joie, c'est du partage, c'est de la rencontre. Et ça a été très important pour nous. À chaque fois qu'on a fait une date pour l'instant, on a eu toujours un moment de médiation. Donc, il y a des chants. Au début, il y a un Madison qui est dansé aussi avec les amateurs. Il y a un moment, une scène d'église dans laquelle ils chantent un chœur d'église. Il y a les petits rôles comme vous avez vu tout à l'heure, voilà. Et ça, c'était hyper important, pas facile à vendre parce que les directeurs et directrices de lieux trouvent ça super d'impliquer les publics, mais en fait Ouais, mais comment on fait? Qui va venir? Ah ouais, mais est-ce que ouais, c'est compliqué? Il y aura peut-être pas de monde. Et finalement, on est content d'avoir insisté parce que même pour nous, c'était hyper précieux d'avoir des gens au plateau qui sont avec nous, avec qui on a passé 3 heures ou 2 jours selon les cas, et qui sont. En fait, on leur dit, on les met très à l'aise en leur disant, il n'y a pas d'erreur possible. Nous, on est là, donc de toute façon, le spectacle, il va se faire. Mais du coup, ça nous oblige, nous, à être un peu toujours sur le grill, à se dire, bon, attention, c'est chaque fois un nouveau spectacle, et ça nous permet d'être toujours ultra concentrés et que les spectacles soient assez joyeux et dans le partage. Voilà. Donc voilà, beaucoup de joie. C'était ça l'objectif. Et donc, on voulait aussi vous raconter un peu le revers de la médaille, parce qu'effectivement, là, on voit quand même que c'est plutôt agréable et plutôt chouette. On a été contents, on a fait toutes les dates qu'on voulait, tout ça. Mais on a eu quelques petites embûches quand même autour de cette création qui était notre première création. Donc, c'est la première fois qu'on était en compagnie. C'est la première fois qu'on était chargé de projet, directeur de projet avec Nicolas. Et la première embûche qu'on a eue, c'est que le comédien que vous voyez là, Aurélien, il n'était pas au départ du projet. Le comédien qui était le comédien principal du spectacle, puisque c'est le héros, Will Kane, est parti. Il a quitté le projet après la première résidence de travail. Il est parti. Donc là, premier petit coup de mou. Bon, on s'est dit, allez, c'est pas grave, on va trouver quelqu'un d'autre. Des comédiens, il y en a d'autres, voilà. Nous avons trouvé un autre comédien formidable, Aurélien Labruyère. Et puis ensuite, nous avons été un peu d'embûche en embûche.
La console lumière est morte.
Donc c'est notre première. Et alors, je ne vous montre pas l'intégralité, mais en gros, ce blackout dure à peu près 2 minutes. C'est énorme.
On a,
vraiment,
on a continué à jouer, non, c'est pas
on a continué
on
à
a
jouer,
continué à jouer
sûr,
dans le noir.
En se disant, ça va revenir.
Ils ont essayé de rebooter la console.
Et là, ce que vous ne voyez pas, c'est que normalement, sur tous les moments chantés, il y a une lumière poursuite. Donc normalement, là, j'étais censée avoir une poursuite sur moi qui ne marchait pas, qui a été le début de la galère. C'était l'enfer. La veille, à la générale, on a mis 20 minutes à commencer parce qu'on n'avait pas de son. Et puis, si on remonte un petit peu le fil des opérations, on a eu le jour, donc la scénographie que vous voyez là, qui a été faite par Lucie Joliot, qui est une femme formidable, scénographe et créatrice lumière. Donc, elle réfléchit à quelque chose comme ça autour du bois, quelque chose de récup, tout ça, bon, très beau. Elle nous fait la livraison du décor au Théâtre de Vierzon. Nous arrivons au Théâtre de Vierzon,
en résidence voilà. Pendant une semaine.
Résidence vraiment dédiée à la scénographie, à prendre nos places dans ce décor, avec son aide évidemment. Et puis le troisième jour, on arrive dans les loges toutes les deux, et puis elle me dit je me sens pas bien, j'ai le cœur qui palpite. Je lui dis écoute, t'as le cœur qui palpite, c'est pas très grave. Voilà. Et puis elle me dit je me sens pas très bien, je commence à avoir un peu mal à l'épaule. Là je me dis tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose, mal à l'épaule, ok, très bien. Et puis elle prend beaucoup d'huile essentielle et de choses comme ça. Et elle me dit va me chercher du gel sémium. Je crois que je suis en train de faire une crise de panique. Va me chercher du gel sémium. Effectivement, je voyais son cœur qui vraiment ça battait quoi. Donc je file à la pharmacie et je dis bonjour, mon amie a un problème cardiaque. Visiblement, elle voudrait du gel sémium. Bon, donc la pharmacienne me dit oui, non, vous n'allez pas lui donner du gel sémium. Vous allez appeler les AMU et puis vous allez l'emmener à l'hosto. Je rentre donc à toute berzingue avec mon gel sémium. Quand même, je lui avais pris son gel sémium. Je me disais, elle a besoin du gel sémium. Je rentre à toute berzingue.
Ça va la calmer un petit peu.
Ça va la calmer un petit peu. Et ni une ni deux, je l'emmène aux urgences, évidemment. Je la rassure, je dis, mais il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. C'est probablement rien, mais je vais quand même t'emmener à l'hôpital. Ce sera quand même plus sécure. Nous partons, je mets hôpital de Vierzon sur le GPS. Je fonce. Nous arrivons pas du tout à l'hôpital. Nous arrivons à une sorte d'EHPAD. Qui n'est pas du tout un hôpital. Donc là, elle commence à paniquer un petit peu. Moi aussi, parce que du coup, je tapais hôpital de Vierzon, ça ne marchait pas. Je commençais un peu à être en panique. Bon, finalement, on fait demi-tour, là, on trouve l'hôpital. Puis moi, j'essayais vraiment de dire non, tout va bien. Et elle me disait, j'ai de plus en plus mal. Elle appelle SOS médecin sur la route. SOS médecin lui dit, là, vous conduisez même, vous arrêtez, vous appelez les pompiers, quoi. Vous êtes en train de faire un arrêt cardiaque, une malaise cardiaque, quoi. Nous arrivons juste à temps à l'hôpital, je rentre dans l'hôpital et puis alors là, tout le monde hyper cool, il y avait une dame qui était en train de remplir des dossiers comme ça, tac tac tac, elle prenait des étiquettes, elle se levait, Michel, j'ai pas l'étiquette, voilà, et moi j'avais ma Lucie qui était comme ça, donc j'ai fini par hurler, alors j'avais vraiment été pendant tout le chemin hyper zen et tout, Et là, j'ai hurlé, bon, écoutez, mon ami était en train de faire un arrêt cardiaque, on est paniqué, il faut la prendre en charge, il faut la prendre en charge. Voilà. Et elle a été prise en charge. Et effectivement, il s'agissait d'un malaise cardiaque qui n'était pas aussi grave qu'un vrai infarctus. C'était quelque chose de nerveux, en fait. Donc, elle n'a pas été opérée, elle n'a pas été... voilà, mais c'était quand même assez flippant. D'autant que moi, je l'ai laissée aux urgences, je suis retournée au théâtre. Et là, je sens qu'au théâtre, il y a quand même une ambiance très lourde. Et donc, la directrice du lieu vient me demander des nouvelles, me dire est-ce que vous savez ce qui se passe, etc. Et en fait, on a compris que le directeur général du lieu était mort d'une crise cardiaque. Directeur technique, ouais, du lieu, était mort 3 semaines avant d'une crise cardiaque à l'âge de Lucie. Donc, effectivement, ça leur rappelait des mauvais souvenirs. C'était un peu lourd. Et voilà, finalement. Tout va bien. Voilà, donc ça, c'était peu de temps avant. Enfin, c'était peu de temps avant.
C'était 10 jours avant la Halograin.
C'était 10 jours avant la Halograin, tout à fait. Et du coup, nous, en fait, on ne savait pas, parce qu'on se disait, peut-être elle va devoir être opérée. En tout cas, si elle a un problème cardiaque, on ne va pas lui demander d'être là. C'est elle qui fait la création lumière. Donc, on ne va pas lui demander de venir faire une création lumière. Bon, c'était complètement lunaire, ce truc. Déjà, notre résidence était, bon, évidemment, interrompue. Donc, on perdait 2 jours de travail.
Deuxième résidence bousillée. Après
la première où
après
le comédien s'en va.
Après celle de Peskin, voilà. Au drame.
Et puis, finalement l'hôpital lui a très bien pris en charge en lui disant, en fait, il n'y a rien d'urgent. Elle a été finalement opérée, mais quelques mois plus tard. Donc, elle a pu être avec nous. Et voilà. Une autre galère...
Là, on dépasse la galère.
Là, c'était carrément le karma. C'est que... Non, d'abord, je vais raconter les costumes parce que c'est plus rigolo. Après, le reste n'est pas très rigolo. Donc, les costumes, ils nous ont été organisés parce qu'ils ne les avaient pas vraiment fabriqués par un costumier qui s'appelle Olivier Berriot, qui fait beaucoup de cinéma et donc qui a accès à tout un tas de loueurs de costumes. Voilà. Et donc, il nous avait trouvé cette petite veste qui était très bien, qu'il a voulu refaire sur mesure pour moi parce que celle-là était un peu abîmée. Et il devait nous envoyer, alors ça c'était après la création, il devait me renvoyer la version sur mesure. Donc, il avait emmené cette veste-là pour la faire à l'identique, et il devait me renvoyer la vraie veste pour, je ne sais plus quelle date, à Issoudun. Et il nous a envoyé un colis qui est resté bloqué dans un locker. Et on s'était dit, ça va être le plus simple, on va le mettre dans un locker, comme ça, à tout moment, je mets le code et je le récupère, c'est plus simple. Pas du tout, je n'ai jamais reçu le code pour déloquer ce locker. Donc j'ai fait une date sans costume, puisque je n'avais pas de costume. Et vraiment, ça, c'était au mois de février. Donc c'était notre 7e ou 8e date, je crois.
Donc le directeur du lieu, très sympa, Hervé Pépion, peut-être d'Issoudun, a contacté le club de country. Il y a un club de country dance à Issoudun. Et donc, ils ont amené des tas de costumes dont on ne s'est pas vraiment servi, mais enfin, on les a quand même mis sur scène avec les amateurs, parce que c'était sympa et drôle. Donc il y a eu toute une organisation. Ils sont allés à Emmaüs, je crois, pour essayer de trouver des petits gilets. Bon, c'était quand même assez amusant, cette galère-là.
Oui, finalement, ça s'est bien goupillé.
Costumes.
Mais on s'est dit quand même, on ne pourra pas avoir une période de travail simple. Tout est toujours un peu compliqué. Et donc la dernière grosse galère qu'on a eue, bon ça c'était un peu moins rigolo, c'est que moi au moment où on est rentré en résidence pour la création, donc vraiment fin octobre, on créait le 6 novembre, mon papa est rentré, mon papa était très malade, et ma maman m'a appelé en me disant « il rentre à la maison, on ne va plus le soigner, donc attends-toi à ce qu'il meure à tout moment ». Et donc je suis arrivée à la Halograin, et j'ai dit à tout le monde « attention tout le monde, voilà ce qui se passe, j'ai mon téléphone dans la poche ». À tout moment, je m'en vais. Mes parents habitent à Marseille. Donc, c'est vraiment très pratique, Blois-Marseille. Donc, il m'avait dit quand même, il aimait beaucoup les westerns, mon papa. Et il avait prévu d'ailleurs de venir voir la création. Et il m'avait dit, t'inquiète pas, je tiendrai. Je ne vais pas t'embêter pour ta première. Je tiendrai. J'ai dit à tout le monde, je mourrai après le 7 novembre. Et effectivement, il est mort le 21 novembre, donc il a vraiment bien fait les choses. Et il a pu voir cette captation qui est là. Et donc, il a quand même vu un peu ce spectacle. Voilà, il y avait une petite dédicace d'ailleurs dans la feuille de salle de la Halograin pour la première, une petite dédicace pour lui. Je vais raconter la petite blague que nous avions faite à ce sujet. C'est que tous les dimanches, mon père adorait les westerns. Et donc, il voulait toujours qu'on regarde les westerns à la télé. Et nous, avec mes sœurs, on en a, vraiment, ça, nous, on avait rien à faire. Bon, bref. Et en général, ils regardaient les westerns, ils s'endormaient au bout de 3 minutes. Et donc, surtout la blague qu'on avait, que Aurélien, je crois, avait trouvé d'ailleurs en répétition, c'est que tous les dimanches aussi, la tradition était que mon père faisait des spaghettis. Et donc, Aurélien a donc décrété que mon père était l'inventeur du western spaghetti. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était un peu, effectivement, on s'est dit, on a quand même un karma sur ce spectacle qui est quand même assez lourd. Mais quand même, bon an mal an, nous avons quand même... Enfin, on s'est dit quand même, c'est un sacré bizutage, quoi. C'est une première création d'une première compagnie. C'est, on a quand même... ouais, on est... Bon. On a tout, tout eu, quoi. Et finalement, on s'en est sorti.
Bienvenue dans la région Centre-Val-de-Loire.
On voulait faire du théâtre joyeux et simple. Et bon, ça a été joyeux et simple, mais quand même, on a quand même...
C'était un petit peu le zoo de Beauval, quoi.
Ouais, c'était un peu compliqué. Mais bon, du coup, c'est vrai qu'on est content d'avoir traversé tout ça. On se dit que c'est aussi des épreuves qui font que les équipes sont un peu soudées, qu'on avance comme ça dans ces galères-là, en se disant c'est show must go on, c'est le spectacle, on va faire ce qu'on peut. Et j'avoue qu'on a eu quand même la chance d'avoir des équipes assez souples. Assez agréable, et on a pu traverser toutes ces épreuves avec joie et avec vraiment beaucoup d'amitié. C'était vraiment chouette. C'est juste, oui, parce que quand même, donc, le spectacle, c'est donc ce fameux Will Kane qui attend son train de midi. Et donc, on s'est beaucoup, beaucoup interrogé pour savoir comment faire arriver ce train de midi, parce que c'est, en gros, pendant tout le spectacle, on dit quelle heure est-il, il arrive, le grand méchant arrive. Est-ce qu'il faut incarner ce grand méchant, Frank Miller? Est-ce qu'il faut que ce soit un des barons, un complice qui est au plateau avec nous, qui mette une grande veste et qui fasse le grand méchant? Est-ce que c'est une ombre? Est-ce que c'est Nicolas? Est-ce que... voilà. Et finalement, nous avons pris un parti totalement radical. Voilà, donc finalement, on a choisi de rien montrer et d'être uniquement en narration et dans laisser les spectateurs. Donc ceux qui ont vu le film peuvent, je pense, retrouver les images du film, et ceux qui ne l'ont pas vu, juste être dans une évocation et laisser la pensée. On s'était même dit, on va peut-être le mettre carrément dans le noir et juste raconter ce qui se passe pour laisser un peu libre, parce que de toute façon, le principe est que les spectateurs, spectatrices doivent avoir beaucoup d'imagination pour imaginer que nous sommes à la fois un juge, un habitant de Hadleyville, une Amy. Bon, donc, on avait hésité à ça. Et puis voilà,
là, on a vraiment l'impression que vous regardez le film et que vous décrivez ce que vous voyez.
Ouais.
C'est un truc, un autre étage.
Ouais. Et alors, il y a une petite chose, je ne sais pas si vous avez vu sur le piano. Bon, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais bon. Voilà, il y a 3 métronomes qui nous ont paru à la fois représentatifs du temps, bien sûr, puisque le tempo, c'est le temps de la musique. Et puis, il y a un côté vraiment cercueil. Quand Nicolas vient refermer les 3 métronomes, il y a un côté un peu cercueil des 3 grands méchants, parce qu'en fait, le grand méchant arrive avec 3 acolytes. Donc les 3 sont 3 petits cercueils. Et puis le grand méchant est un peu comme pendu, comme ça, avec ce projecteur qui tombe. Voilà. Une idée de notre créatrice lumière, Lucie Joliot, dont le cœur va très bien. Voilà ce qu'on peut dire de ce spectacle et de la manière dont on l'a pensé. Ce qui a été vraiment formidable pour nous, pardon, je te coupe, c'est que ça a été une occasion vraiment formidable de prendre nos marques dans la région, de rencontrer des partenaires, de se rendre compte que cette médiation qui était très importante pour le spectacle, elle était aussi importante pour nous, parce que ça nous fait du bien de faire du théâtre avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, de quitter un peu notre milieu d'artiste, de voir un peu autre chose. Et que ça marche, on fait des rencontres formidables. Moi, ça m'a vraiment remis dans mes années de quand j'ai commencé le théâtre, quand j'étais ado. Et il y a cette joie vraiment naïve à se jeter dans un spectacle. Et on a eu vraiment des rencontres avec des amateurs qui nous ont fait confiance, vraiment les yeux fermés. C'était vraiment super. Et voilà, donc on est très heureux. Le spectacle western continue. On a d'autres dates qui arrivent l'année prochaine. Et puis nous, maintenant, le western va vivre un peu sans nous. Et maintenant, nous, on se remet en marche pour le prochain spectacle de la compagnie qui s'appellera Juliette Robinet, et dont je ne parlerai pas tout de suite parce que sinon j'en ai pour une heure et demie.
Est-ce que vous avez des questions ?
La première, c'était à la Lograin. Et en fait, vous êtes produit où depuis ? Et comment finalement vous avez fait d'autres représentations ? Alors, je ne sais pas si c'est que en France ou vous êtes expatrié. Enfin, je ne sais pas.
Alors, on travaille avec un bureau de production qui s'appelle Les Filles du Jolivet et qui nous ont pas mal aidé pour trouver des dates. Donc, c'est-à-dire, elles, leur métier sur Western, ça a été de trouver des lieux de diffusion. Et donc, on a pas mal tourné en région centre. On a tourné à Épinal. Et en fait, c'est un peu le nerf de la guerre. Vous avez quand même raison, parce que c'est énormément. Donc là, c'est quand même quasiment... C'est 18 mois de travail et vraiment d'investissement et de tableur Excel et de doute et d'angoisse. Et voilà. Pour arriver à faire cette première, bon an, mal an, le 6 novembre. Et après, effectivement, il faut que le spectacle y vive. Sinon, ça n'a aucun sens. Pour ça, nous, au début, on était un peu... Nicolas avait effectivement un contact à Épinal. Donc ça nous a permis de vendre ce spectacle à Épinal. On a fait trois très belles dates et plein d'autres médiations après à Épinal. C'était super. Et après, c'est vrai que les filles du Jolivet, qui connaissent très bien la région, nous ont ouvert les portes de pas mal de lieux. Donc on a fait 10 dates entre... On a joué Ballon-Miré, Issoudun, Vendôme, bien sûr, parce que c'est à côté de chez nous. Donc c'était important pour nous de jouer là-bas. Où est-ce qu'on a joué d'autres ?
Et on va jouer à Vierzon, à Mer, à Lignières, à Pithiviers, et quelques autres dates à venir.
Mais c'est vrai que c'est quand même la vraie problématique pour les compagnies. Enfin, c'est-à-dire, il y a une première problématique qui est de trouver du financement et de l'organisation pour réussir à fédérer une équipe, trouver les financements, les subventions, les préachats, les coproductions, voilà. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, c'est comment faire connaître ce spectacle. Donc il y a des gens qui nous font confiance, qui ont acheté le spectacle sans le voir. Et puis maintenant, à chaque fois qu'on joue, on essaye que des professionnels viennent le voir en espérant que ça fasse des petits et qu'il y ait d'autres dates. Mais c'est vrai que la conjoncture actuelle est quand même assez tendue et que c'est pas facile. On a monté une compagnie à un moment où c'est pas évident pour les compagnies, mais on est quand même assez heureux du chemin parcouru. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi, une envie évidemment de jouer le plus possible.
Et donc là, c'est le western, donc vous avez d'autres projets, d'autres productions, mais est-ce que vous pensez faire en parallèle la diffusion western et la nouvelle production ?
Oui. Non mais western maintenant, grâce à ce bureau d'accompagnement, ce bureau de production, va tourner tout seul, c'est plus nous qui nous en occupons. Et puis nous, notre travail maintenant, c'est de monter d'autres spectacles. On a par exemple un spectacle jeune public qui s'appelle Les 4 saisons du Buisson. On a fait un spectacle qui s'appelle Les Voix intérieures. Ça, c'est un spectacle de commande pour un festival avec de la musique contemporaine et quelque chose autour d'un texte de Mélanie, mais inspiré de Ulysse de James Joyce. Voilà, on a plein de choses en route, mais on ne s'occupe pas de la diffusion, parce que ça, c'est vraiment un travail très, très violent.
Mais quand vous dites « ça va se faire sans nous », ça ne peut pas être sans vous, puisque vous êtes
acteurs. Ah non, on va jouer. Quand on va nous dire « vous allez jouer à Savonnières le 24 octobre », on y sera. On va y aller.
Oui, je pense que c'est nécessaire.
Mais ce n'est pas nous qui avons trouvé la date de Savonnières.
Oui, d'accord. C'est pas vous qui allez faire la prospection pour finalement retrouver des lieux et des
dates. Ça, c'est un vrai métier.
D'accord. OK.
Moi, j'ai une petite question. C'est concernant avant la compagnie, sur le travail notamment d'écriture avec Vincent Dedienne. Ça se passe comment ce type de travail, c'est des groupes de réflexion collective, il faut être, j'imagine, hyper prolifique, hyper efficace dans l'écriture. Comment concrètement ça se fait au quotidien, ce travail ?
Alors, je pense que ça dépend vraiment des artistes et des projets et des façons de travailler de chacun. Vincent, depuis le début, il a choisi de s'entourer d'une équipe, donc on est trois autrices à travailler avec lui. Et tous les quatre,
on travaille ensemble de manière hyper sérieuse. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que c'est quand même des spectacles d'humour qu'on a écrits ou des chroniques d'humour. Et en fait, on est hyper sérieux, hyper complémentaires. On a quatre univers très différents. On a acquis avec les années, parce qu'on a commencé à travailler pour son premier spectacle en 2015, donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Donc on a acquis une certaine facilité à écrire pour lui, parce qu'on sait que c'est lui qui va les interpréter. Donc c'est pas du tout pareil d'écrire quand on connaît la personne qui va jouer, et d'écrire pour soi, ce qui m'arrive aussi, ou pour d'autres gens qu'on connaît pas du tout, ce qui m'arrive aussi. Et là, ce qui est assez confortable, c'est que d'abord, on se connaît très bien maintenant tous les quatre, et que on sait ce qu'il est capable de faire. Enfin, on l'a sa voix dans notre tête quand on écrit. Donc, en général, lui, il donne des cadres. C'est-à-dire, il arrive, il dit, bah voilà, là, je voudrais écrire mon prochain spectacle. OK, on va en résidence d'écriture. On est dans un endroit, parfois très joli, parfois pas. Enfin, en général, plutôt des endroits jolis. Et puis, on prend nos ordinateurs. Il dit, bah voilà, je voudrais travailler sur les enfants dits atypiques et les enfants, comment on fait. OK, bon, bah, on y va. Alors, on écrit des trucs, des pistes, des litres et des litres et des litres et des litres et des litres d'écriture. Et puis, en fin de journée, on dit, bon, on fait un petit bilan, on se lit tout ce qu'on écrit. Et en fait, il y a un consensus assez naturel en général quand quelqu'un a une bonne idée. Les autres sont d'accord, donc ça se fait comme ça. Et puis après, lui, il réécrit parfois un petit peu, mais on est vraiment à quatre de bout en bout, quoi. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est très sérieux. Quand on faisait les chroniques pour l'émission Quotidien, on passait la journée entière dans la rédaction, quoi, dans un bureau fermé. Et vraiment, on entendait une mouche voler, quoi. C'était vraiment hyper sérieux, tac, 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 tac. Puis à l'heure qui tourne, on sait qu'il faut pondre une chronique avant 18h30 ou 19h. Donc on n'a pas le choix, faut y aller, quoi. Donc on y va, et puis voilà. Super exercice, parce que du coup, écrire sous la contrainte, c'est très... en fait, ça aide, en fait.
Et il n'y a pas facile. Justement, avec cette écriture sous la contrainte, des blocages. Enfin, parfois, on...
Bah moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, c'est plutôt si j'ai pas de contraintes, alors là, c'est carrément blocage.
Ah oui, trop ouais. de...
ah ouais, trop de pages blanches, ouais, c'est pas okay. possible. Alors que si on me dit, je veux écrire... Un bon tableur Excel avec quelqu'un qui me dit, je veux de la musique contemporaine, il faut que ça parle de Joyce, que ça parle de psychanalyse, et il y a une flûtiste et une chanteuse contemporaine, tu peux écrire quelque chose ? Bon, ça va aller. C'est comme ça que je me sens plus à l'aise pour écrire. Je pense que c'est dû peut-être à ce petit syndrome de l'imposture. Parce que j'ai pas du tout ce truc de un peu romantique de je vais mettre un café puis je vais commencer à écrire, j'ai une idée de projet vachement intéressant. Je suis pas du tout comme ça. Je travaille vraiment, si on me demande de travailler, je peux faire quelque chose, mais il faut que j'ai vraiment une contrainte. J'ai beaucoup écrit pour les entreprises aussi. C'est assez formateur. Parce que là il y a énormément de contraintes. Il y a du jargon, il y a du beaucoup de contraintes.
Ce que vous avez fait avec les complices là dans la pièce, est-ce que vous auriez pu le faire avec le public juste du soir et essayer de le faire avec des gens qui n'ont rien demandé mais ouais. que vous utilisez ?
Très bonne question. Ça va être le cas d'ailleurs à la prochaine date qu'on fait à Mer, puisque c'est une date en extérieur, donc il y a un peu moins de préparation, on n'investit pas un lieu, c'est un peu plus roots, et c'est ce qu'on va faire. On va haranguer. Pour aller chercher des gens. Alors évidemment, ce sera pas aussi travaillé, ce sera pas aussi fin, ce sera pas aussi précis, mais il y aura le charme de l'improvisation. Parce que, alors Aurélien, comme moi, on est assez rompu à l'exercice de l'improvisation. On fait pas mal d'improvisation lui et moi, donc c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Et je pense, en tout cas, on mise sur le fait qu'on sera apte à aller chercher des bonnes volontés. Et que dans cet esprit, donc là, il y a pas du tout de lumière, il y a pas de, on est vraiment posé sur un parking et puis. Et donc, on mise sur le fait que on va trouver. Et si jamais on ne trouve pas, on trouvera quand même des solutions, je pense.
Oui, en fait, on a un petit protocole de médiation express. C'est-à-dire qu'on peut choisir des gens, enfin demander à des gens, solliciter des gens du public, leur demander si ça les amuse de participer un petit peu et leur apprendre quoi faire, que faire de manière un peu schématique en quelques minutes. Un petit protocole spécial de médiation express.
Ça a fait partie des choses à travailler quand on était en résidence, notre première résidence d'écriture. Ça faisait vraiment partie des choses à travailler parce qu'effectivement, il fallait trouver une écriture dans laquelle on puisse à la fois faire, nous, tout ce qu'on avait à faire et à la fois trouver des procédés pour que les gens puissent venir jouer avec nous sans que ce soit trop compliqué. Et donc, par exemple, là, ce que vous avez vu tout à l'heure, l'extrait où moi, je souffle le texte à quelqu'un, ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut se faire avec n'importe qui. Mais c'est vrai que, du coup, ça a été une vraie réflexion de comment on amène, comment on peut amener, à quel moment on peut amener une participation qui soit simple, qui ne mette pas les gens en danger, que ce ne soit pas non plus le truc, tu viens, tu te mets sur scène et on se fout ta gueule, et voilà. Que ce soit vraiment quelque chose qu'on fait avec. Parce que parfois, moi, je sais qu'en tant que public, j'ai horreur de ça quand on me demande de participer. Quand, par exemple, on me demande de me lever pour chanter des trucs, ou j'ai horreur de ça. Mais là, j'avoue qu'à faire, quand on est de l'autre côté, c'est super. Et il y a des moments dans le public, dans le spectacle, où on fait justement se lever les gens, où on va, nous, dans le public avec Aurélien, et on parle aux gens. Et c'est super agréable à faire, parce qu'il y a un petit frisson de l'inconnu, de comment les gens vont réagir. Et je pense que... Enfin, j'ose espérer que c'est pas désagréable, en tout cas pour les gens qui assistent à ça. Et en plus, dans le film, il y a une scène comme ça où il y a vraiment tout le village qui est réuni et qui réfléchit à cette question. Est-ce qu'on va aider notre héros Will Kane, ou est-ce qu'on le laisse tout seul? Et donc chacun y va de son point de vue. Donc c'est une scène qui est très chorale, très participative. Et c'est une scène qu'on fait effectivement au milieu des gens, et c'est très très amusant à faire. Donc normalement, ça devrait marcher. Sans médiation, vraiment, enfin, sans 3 heures ou un week-end de médiation. D'ailleurs, c'était pas facile à vendre, parce que du coup, on arrivait pour vendre ce projet en disant « on peut faire de la médiation, enfin, c'est un spectacle participatif, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un week-end de médiation, hein. On peut aussi le faire sans. Bah, » alors, c'est participatif ou c'est pas participatif? C'est vrai que c'était un peu, il a fallu trouver la manière aussi de vendre cette idée-là, parce que pour nous, ça nous paraissait évident que bah oui, on se débrouille avec ce qu'on a. Si on a des gens qui ont un week-end, c'est super. Si on a des gens qui ont 10 minutes, ce sera super aussi, on trouvera. Mais il faut que les gens aient confiance en nous pour faire ça, quoi. Un peu. Et les gens ont eu confiance jusqu'à présent.
À la Halograin, vous avez aussi fait une représentation scolaire. Vous avez aussi fait participer des collégiens, il me semble. Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont réagi positivement? Et la représentation, voilà, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus.
Bah, c'était une très belle représentation. Oui, effectivement, on est allé dans les collèges, lycées même, non?
Que des collèges.
C'était très vivant. Alors, il y a eu des classes qui ont accueilli la chose de manière très différente, des classes très très volontaires qui voulaient participer à tout, et d'autres qui avaient moins envie. Par exemple, on avait une classe dans un collège à Rabelais, je crois. Enfin bref, un collège de Blois où ils ne voulaient pas chanter. Donc pas de bol, parce que le prof référent, c'était le prof de musique. Donc lui, il voulait absolument que les enfants chantent, mais il ne voulait pas. Donc on s'est adapté, on a fait un système pour que les jeunes gens qui assistaient à cette représentation scolaire aient juste à répéter ce qu'on chantait nous, plutôt que d'apprendre un chant qui avait été écrit spécialement pour eux et qu'ils avaient refusé d'apprendre. mais ça a marché quand même. Donc on s'est adapté, on a changé de protocole. Et ça, c'était le plus difficile. Autrement, dans les autres classes, ils sont vraiment bien amusés à faire les bagarres, bien sûr, les danses. Alors, c'est sur vraiment la base du volontariat. Hein. Sur 25 élèves, s'il y en a 12 qui ne veulent pas danser, ce n'est pas grave du tout. Il restera des gens qui...
C'est vrai qu'ils sont plutôt quand même bien...
Oui, ça les a vraiment bien amusés.
Et la représentation scolaire était vraiment géniale. C'était
notamment il y a une scène de parlement où les comédiens vont dans le public, comme vient de en parler Mélanie, pour exprimer des opinions différentes sur l'attitude à avoir en cas de danger. Est-ce qu'on aide le héros? Est-ce qu'on va se cacher? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est courageux, etc. Et c'était particulièrement vivant.
Oui, parce qu'en fait,
ils ont vraiment beaucoup réagi. Participé.
Les jeunes gens n'ont pas forcément... Quand on est adulte et qu'on a l'habitude d'aller au spectacle, on n'ose pas, on se dit, si on me pose la question, je ne vais peut-être pas répondre, je suis spectateur. Bon. Alors que les jeunes gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle, si on va à côté d'eux et qu'on leur parle, bah, ils répondent. Hein. Et donc, la question que posait le comédien sans arrêt, c'était « Qui est partant pour m'aider ?» Et ils disaient tous « Moi, 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 moi !» Donc, il y avait tous les gamins qui disaient « Ouais, moi, moi, non, ça va pas !» Et en fait, alors nous, on a un petit micro, donc on passait au-dessus, on arrivait à passer au-dessus du brouhaha pour parfois calmer. Et je dois dire qu'ils étaient tellement à l'écoute que ils avaient vraiment envie d'écouter pourquoi on était d'accord ou pas d'accord. Quand on disait, mais tu veux vraiment y aller, tu veux vraiment aller risquer ta peau, tu veux aller mourir, c'est la mort en fait, tu veux aller mourir en fait. Il y avait quelque chose de très, très spontané, très naïf, et c'était super. Pour nous, c'est du pain béni, quoi. Puis en plus, encore une fois, comme on est un peu rompu à l'exercice de l'impro, on n'avait pas du tout peur d'être en interaction avec eux. Et donc, c'était très vivant. Ils étaient vraiment à fond. C'était génial. Ouais, c'est une super expérience. On s'arrête là ? Eh bien, merci beaucoup.
C'était la rencontre d'artistes en circuit court. L'intégralité des 5 rencontres sont d'ores et déjà disponibles sur le site de Studio Zef à la page artistes en circuit court. Et rendez-vous donc tous les jeudis à 17h au mois d'août pour écouter ces 5 rencontres. Salut à tous et à toutes.